Salut Charles.
Salut Nicolas.
Charles, bienvenue donc dans Comptoir IA pour ce 68e épisode. Je suis hyper heureux de te recevoir. Trop bien qu'on ait réussi à caler ça. Ça faisait très longtemps que je voulais te recevoir sur le podcast Comptoir IA. Donc Charles Gorintin, tu es le CTO et cofondateur de Alan. On te connaît pour ça. Mais tu es aussi co-founder, advisor de Mistral. Je crois, sont encore dans vos bureaux, si je comprends bien. Donc ça c'est quand même hyper cool. Et je sais aussi que tu t'intéresses à ce sujet depuis longtemps, parce qu'en regardant ton profil LinkedIn, j'ai vu que quand tu étais à Normalsup, tu avais travaillé aussi sur le computer vision, le machine learning en 2010. Donc voilà, donc je pense que tu as un point de vue très, très éclairé là-dessus et que tu vas nous en dire beaucoup sur l'IA générative, sur ce qui s'est passé, sur Mistral, sur l'IA générative peut-être au sein d'Alan. Est-ce que vous en faites quelque chose? Et donc, bienvenue.
Merci beaucoup et merci beaucoup de m'accueillir sur le podcast. C'est assez rigolo que tu me parles de l'IA en 2010. J'ai fait ce master de vision apprentissage en 2010 à l'ENS. Mais ce qui était assez drôle, c'est que à l'époque, quand je suis rentré dans le master, tous les gens à qui je parlais me disaient les réseaux de neurones, grosso modo, ça marche pas, ça marchera jamais, on le sait, tout le monde le sait. Ne te prends pas la tête à essayer d'apprendre ça. Ça peut être, tu peux le faire par curiosité, mais ça marchera jamais. Donc,
t'as vraiment eu ce message, quoi. Le fameux ça marchera jamais. On t'a dit en face.
Exactement. Okay. Donc c'était 2010-2011 et pas de chance 2012. AlexNet qui débarque et qui montre que en fait le deep learning c'est vraiment le grand truc. Mais moi entre temps j'étais parti à San Francisco aller bosser chez Facebook en tant que data scientist.
Ouais.
Ça restait à peu près le même sujet, mais j'ai pas pris la vague du deep learning comme d'autres.
Ouais. Ouais, t'es pas resté dedans en mode Yann LeCun, quoi. T'as fait des petites incartades, mais
paradoxalement c'est lui qui m'a rejoint parce que il a rejoint Facebook en 2013, donc après okay. On n'a pas bossé ensemble et moi j'étais assez loin de ces sujets à l'époque.
Ok, trop bien. Alors, Charles, donc, merci d'être là. Est-ce que je peux te demander, en tout cas, comment tu as vécu l'année et demie qui vient de s'écouler, en tout cas depuis le 30 novembre 2022 de ChatGPT, qu'est-ce qui s'est passé selon toi dans l'IA générative ces derniers mois?
Déjà, je pense que ça commence un petit peu avant le 30 novembre 2022, même si je me souviens très bien de la date comme toi. En fait, début 2022, je commence à parler avec des copains, on sent qu'il se passe quelque chose en IA, que les modèles sur les transformers en fait, deviennent pertinents, ils commencent à sortir des choses qui clairement s'apparentent à de l'intelligence. Il y a déjà Geekface qui a fait son pivot, qui commence à vraiment prendre de l'ampleur. Il y a les modèles d'OpenAI qui avec GPT-3 qui sont disponibles. Et donc à ce moment-là, moi je décide d'arrêter complètement tout ce que je fais en tant que CTO chez Alan et de me reformer à l'IA et donc de recommencer de zéro sur tous les trucs d'entraînement de réseaux de neurones pour me reformer sur le sujet parce que je sentais
tu t'es fait un break de l'opérationnel pour te replonger dedans, quoi. Ok.
Exactement. Après, je parlais beaucoup à l'époque de me virer de mon job tous les 6 à 12 mois, donc c'était une occasion de me virer de mon boulot pour pouvoir me focaliser sur un truc nouveau, donc qui était l'IA. Donc on a passé pas mal de mois et en fait donc on commençait à se dire, ah ouais, mais il n'y a pas vraiment de champion européen en Europe, enfin de champion européen en IA, et il faudrait qu'il y ait des gens qui lancent ça, parce que typiquement, on a les talents, parce que bon, ce master de vision ouais. Apprentissage forme les meilleurs, et les moins bons comme moi, mais et surtout, en fait, il y a tout le terreau qu'il faut pour pouvoir vraiment construire des champions en Europe.
Bien sûr.
Peut-être sur 50 personnes qui, à l'époque, savaient entraîner les LLM, il y avait un tiers qui était français. Donc ça faisait... Il y avait des moyens.
Ouais.
Mais, et donc, on avait écrit justement à l'époque avec mon associé Jean-Charles et quelques autres un papier pour dire bon ben voilà, c'est un état de fait, il faut peut-être faire quelque chose. Apparemment, le papier s'est retrouvé partagé
aux oubliettes.
Un peu par...
Ah non, non,
j'ai partagé, ah oui. Mais il s'est rien passé derrière. Et en fait, donc tu parles du 30 novembre 2022. ChatGPT, ça commence à s'emballer. Et nous, on commence à se dire, en fait, vu que personne ne le fait, il faut qu'on se débrouille pour que ça émerge et qu'il y ait un champion européen. Parce que sinon, on risque de se retrouver, d'une part, avec un oligopole des OpenAI, des Google, Facebook qui vont garder le sujet pour eux. L'Europe va être complètement dépassée. On va avoir un EU AI qui va encore plus loquer le marché. Et donc, ça risque d'être assez triste pour l'Europe s'il n'y a pas de champion européen qui émerge.
Tu as eu cette vision-là directe au moment de la sortie de ChatGPT.
Ouais, enfin, c'est vraiment un truc qu'on a commencé à sortir. Et donc, on a commencé à écrire une stratégie de comment est-ce qu'on pouvait construire un grand acteur comme ça.
Ok, avec Jean-Charles, dans ce cas-là.
Avec Jean-Charles, ouais, exactement. On a écrit ce truc. Il nous fallait de l'argent, donc beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, commencer par peut-être 50 millions, 200 millions, 1 milliard de levées pour pouvoir entraîner ces modèles qui coûtent hyper cher à entraîner.
T'as raison, Sam Altman a dit hein, aussi du côté OpenAI que ce serait peut-être l'aventure technologique, la start-up technologique la plus chère et la plus gourmande en termes d'investissement de l'histoire. Donc, je pense que c'est important de le voir aussi comme ça, comme vous l'aviez dit. Okay.
Évidemment, donc ça, tu as besoin du compute. À l'époque, en fait, même Nvidia était complètement submergé par les demandes, donc c'était difficile d'avoir du compute aussi. Ouais. Mais surtout, et avant tout, en fait, il y avait besoin d'avoir les talents, donc les meilleurs chercheurs mondiaux qui devaient développer ça. Et on a eu la chance, en fait, de rencontrer Arthur Mensch, Timothée Lacroix et Guillaume Lampre, qui, on a découvert plus tard qu'ils voulaient eux-mêmes monter une boîte. Et en fait, on s'est dit, on va créer une boîte ensemble avec eux. Nous, on leur a dit, bon, on vous donne la stratégie qu'on a élaborée. Ouais. À ce moment-là, il y a Cédric O aussi qui était rentré dans l'équipe. On vous donne la stratégie qu'on a élaborée. On vous aide à lever énormément d'argent, à devenir d'excellents entrepreneurs. On prend une toute petite part du capital. Et vous serez les immensément majoritaires et c'est vous les vrais fondateurs de cette boîte. Et donc, on s'est mis d'accord là-dessus et puis on s'est mis à bosser.
Et d'accord. Merci pour ce rappel de l'histoire, en effet, parce que et c'est vrai que donc, vous aviez déjà ce côté très entrepreneur avec Alan et établi. Eux, ils étaient à ce moment-là encore dans la recherche. Donc, comme tu dis, donc, Arthur, Guillaume et Timothée, ils étaient sur le profil chercheur, oui. Oui, c'est très intéressant de revenir sur cette manière-là dont ça s'est mis en place, mis en route, tout ça.
Et je me rends compte que je n'ai pas du tout répondu à ta question initiale. Hein, mais,
non, mais c'est pas grave du tout. Franchement, c'est presque plus intéressant. Et en fait, il fallait, et tant mieux, si on peut revenir, le retour que tu as fait un petit peu sur cet historique. Je comprends qu'en fait, toi, justement, tu avais anticipé le sujet. Et c'est ce qui permet, c'est ce qui a permis aussi l'éclosion de Mistral, je pense, assez rapidement, en fait, et la sortie de leur premier modèle. Parce que, en fait, si vous aviez tous commencé à travailler le 30 novembre 2022, ça ne serait pas passé de la même manière.
Ouais, potentiellement. Mais en fait, je pense que c'est ce qui est intéressant, c'est peut-être de parler de cette stratégie, en fait, de qu'est-ce qui a fait qu'on ait pu aller très vite avec Mistral. C'est vraiment ce contre-positionnement contre l'oligopole qui est en train de se créer avec OpenAI, Facebook, Google. En fait, on s'était rendu compte que la manière de pouvoir construire un champion, ce serait de pouvoir se mettre là où les gros n'oseraient pas se mettre, ou en tout cas le feraient qu'à leurs dépens. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est on a pris l'exemple qui s'était passé peut-être en août 2022, ce qui est aussi un truc assez intéressant. Août 2022, tu as Stable Diffusion
Bien sûr.
qui est déployé, qui est release en open weights, donc les poids ont été partagés, et là ça a créé une explosion cambrienne d'innovation. Enfin, moi j'étais sur Reddit toute la journée à cette époque-là. J'ai déployé mes premières images où j'entraînais mes Stable Diffusion sur mon visage fine-tuné, et genre c'était magique comme moment.
Bien
Et en fait,
sûr.
explosion cambrienne, Emad Mostak est devenu une célébrité du jour au lendemain. La boîte, elle a valu 1 milliard au bout de quelques mois. Bon, ils ont d'autres problèmes aujourd'hui, mais on va passer cette
Il est
expérience.
plus dans la boîte.
Voilà. Mais ce qui, en fait, on avait vu que globalement, ce qui s'était passé sur l'image pouvait se passer sur le texte. Et donc là,
Oui, bien sûr. Non, mais tu as raison. Tu as raison. Il y avait ce souci aussi de la liste d'attente déjà sur DALL-E à l'époque avec OpenAI. Cette liste
Oui.
d'attente qui n'avançait pas et d'être sur bah aussi du closed source. Et en effet, là, le fait de donner l'accès à Stable Diffusion en open source et à tout le monde, ça, c'était révolutionnaire. Et donc, je comprends tout à fait l'inspiration et le fait de dupliquer aussi un peu cette stratégie sur le texte.
Exactement. Et en fait, ce qu'on voyait, c'est que OpenAI voulait pas release DALL-E au grand public parce qu'ils avaient peur des implications safety. Et en fait, c'est quelque chose qui était aussi extrêmement paralysant pour OpenAI sur le texte, mais aussi pour Facebook ou Google qui avaient des capacités. En fait,
Et encore plus en fait. OpenAI même a réussi à avancer, on va dire, plus vite que c'est Google, Meta. Mais de l'autre côté, oui, on peut avancer encore plus vite que OpenAI
exactement.
en prenant un petit peu plus de risques.
Ouais. Et en fait, enfin, janvier 2023, donc on avait cette stratégie donc de se contre-positionner par l'open source. Et en fait, fin février 2023, tu as Llama qui sort. Et en fait, Llama qui était justement co-créé par Timothée Lacroix et Guillaume Lampe.
Guillaume.
Ouais, qui sont
En
des.
encore que des Français, comme tu le disais tout à l'heure, là pour le coup, sur le papier de recherche, je sais plus, mais
11 sur
10
14,
Français, 11 sur 14.
ouais, exactement. Et donc, enfin, qui release en open source. Donc, ça a créé quelque chose, un engouement incroyable, ce Llama release en open source. Après, c'était avec une licence pas très permissive et des choses pas claires qui en fait laissaient encore de la place pour aller plus loin.
Tout à fait. À un certain stade, c'était plus de l'open source, quoi. Enfin, et on était
Ouais, c'est en fait c'était non commercial. Ils voulaient pas lâcher les weights pour tout le monde, mais dès qu'ils ont été disponibles, en fait, ils ont été uploadés sur GitHub ou Hugging Face, etc. Et donc fast forward, on bosse sur le sujet, on commence à préparer. Et mai 2023, donc Arthur, Guillaume et Timothée peuvent sortir de leurs entreprises et se lancent sur Mistral. Et donc on annonce à l'époque donc une levée de fonds de 105 millions d'euros. Et ensuite,
Eh oui.
septembre 2023, Mistral 7B qui sort et qui fait un splash incroyable en termes de dans la communauté open source. Et notamment avec la manière dont ça a été release, qui est assez, assez rigolote.
Ah, totalement, totalement. Quel style avec en torrent, avec les magnets, comme sur du téléchargement. Ça part dans la nature. Derrière, bon, ben, on ne peut plus rien rattraper. En tout cas, c'est parti. Manière très rigolote, mais qui, je trouve, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est quasiment devenu un trait de communication, quoi, tu vois, de Mistral, en fait.
Ouais, exactement. Mais en fait, ça reste dans cette stratégie de contre-positionnement. C'est qu'en fait, ça ne pouvait que marcher si on ne reprenait pas les codes des autres. Parce que, enfin, faire une release où genre tu mets un lien que la plupart des le commun des mortels est incapable d'utiliser, en fait ça paraît complètement bizarre, mais en fait ça appelait directement aux développeurs, aux chercheurs en IA qui soudainement avaient en fait un modèle qui marchait et qui marche encore mieux que les Llama 1, Llama 2 à l'époque, qui étaient les meilleurs modèles open source et qui pouvaient faire tourner sur leur ordi, quoi.
Phénoménal, phénoménal. C'est génial d'entendre l'histoire racontée par toi. Et tu vois, je viens d'apprendre plein de détails et de comprendre plein de choses, comme nos auditeurs, je pense. Donc, merci beaucoup, Charles. On va revenir là-dessus, sur cette stratégie, mais je te propose d'avancer un petit peu sur nos sujets récurrents un petit peu aussi, pour les traiter, même si ce que tu nous dis là m'intéresse énormément. Le tool d'IA que toi, tu utilises le plus dans ton quotidien.
Alors, aujourd'hui, je pense que c'est le chat, donc le chat Mistral.
Le chat Mistral.
Que j'ai swappé, enfin avant, j'utilisais ChatGPT, mais ouais. En gros, comme outil pour coder tous les jours, c'est quelque chose que j'utilise dès que je veux transformer du texte. Ouais. En fait, j'utilise ça. Peut-être même de manière un peu plus précise, l'outil que j'utilise le plus, ça va être les outils de transcription de voix vers le texte.
Ah mais je suis alors très intéressant que tu dis ça. Je trouve que c'est comme on dit souvent, enfin c'est sous-coté, quoi, un petit peu. Tu vois ces outils là de transcript, de speech to text, alors que une fois que tu les utilises, une fois que tu les intègres dans ton quotidien, tu peux plus t'en passer. Mais en fait, et c'est tellement là que tu le vois plus, quoi. Enfin ouais.
Il y a une personne chez Alan qui m'a fait réaliser quelque chose, c'est qu'on a une asymétrie. Cette personne-là, il s'appelle Antoine Lisée. Et en gros, il y a une asymétrie. Quand on parle, on a beaucoup plus de bandes passantes, on envoie plus de signal en une seconde de parole qu'en une seconde d'écriture.
Bien sûr. Donc, ouais.
Mais paradoxalement, en fait, quand tu lis, tu peux absorber beaucoup plus d'informations que quand tu écoutes. Donc, la voix en outbound et la vue en inbound. Et donc, ça, avec les nouveaux outils de voice to text qui deviennent, en fait, genre vraiment, qui marchent vraiment bien aujourd'hui, ce qui n'était pas vrai il y a quelques mois, années, en fait, on peut s'affranchir complètement de tout ce qui est la forme et se concentrer sur le contenu. Et parler, moi je fais des voice memo et je parle à mon téléphone comme ça, tout en lisant quelque chose. Et derrière, il y a un LLM qui va me transformer ça en une réponse tout bien écrite. Je l'édite si je suis pas d'accord avec quelque chose. Et je communique uniquement par ça chez Alan.
C'est génial. Ça me fait penser à plein de choses en fait, mais... Ces LLM, en fait, ils deviennent une espèce de métacompétence de qualité, de structuration de l'information. Et c'est certain. Et en fait, le truc, c'est que tu peux prendre n'importe quelle note, la dictée. Moi, je le fais tout le temps. Il va te sortir un truc hyper structuré. Je viens même de penser de rencontrer un ami qui est dyslexique, si tu veux, qui, lui, prend des notes, tu vois, à la voix, comme ça, au texte. Ensuite, il a des raccourcis. Sur son iPhone, et ces raccourcis, en fait, ils font passer ces notes vocales et textes dans le chat GPT, Et derrière, eh ben, il n'y a plus de problème de dyslexie, quoi. Tu vois, tout le contenu est restructuré, cleané, plus de fautes d'orthographe et tout ça. C'est extraordinaire pour se concentrer sur le contenu.
Voilà, et en fait, moi, ma conviction forte, c'est que la forme pollue la pensée. C'est que si tu dois penser à la manière dont tu écris, en fait, ça t'empêche de réfléchir et de te focaliser sur le contenu. Et la force incroyable des LLM aujourd'hui, c'est leur capacité à transformer la forme tout en préservant le contenu. Sur le contenu, parfois, en fait, ils n'ont pas suffisamment de contexte et pas suffisamment d'idées de ce que tu veux vraiment dire. Donc, tu peux pas juste leur faire confiance pour te donner le texte qu'il faut. Et toi, ça te permet de vraiment te libérer de tout le côté forme. Et ce qui est assez intéressant, c'est que on a vu cette révolution pour les ingénieurs, pour les développeurs, au moment où il y a Prettier qui est arrivé sur le marché il y a quelques années. Prettier, en gros, ce qui est un formateur de code. Donc on peut écrire son code un peu n'importe comment et ça va le formater de la bonne manière et on n'a pas besoin d'y penser. Et en fait, avant qu'il y ait ces outils-là, les développeurs en fait passaient du temps à essayer de bien formater, à avoir bien le breaking space. Il y a ces blagues dans Silicon Valley, la série des espaces et des tables, par exemple, enfin, qui sont des débats qui ne servent globalement à rien. Et si tu peux avoir le format qui, en fait, juste sort de ta tête, en fait, tu gagnes énormément de place dans ton esprit. Et ça, je trouve ça passionnant. Et il y a la même chose, en fait, qui est en train de se passer grâce au LLM sur la manière dont on communique nos pensées.
C'est extra ta vision. Je pense que ça va même, on pourra encore même tirer le trait, aller encore plus loin sur l'image, la vidéo, la musique. Tu vois, j'ai pas besoin de savoir faire du solfège juste pour créer un morceau. Tu vois, une petite mélodie. Si je peux utiliser un tuno là, tu vois, ben, je suis très content. Ce que je voulais, c'était pas forcément. Je voulais juste faire tel type de musique à tel moment, tu vois, et maintenant je peux le faire, quoi, tu vois, en fonction de
Alors,
mon inspiration.
ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, moi, ça m'a fait me rendre compte que il n'y a pas de création, il y a seulement de l'édition dans tout. C'est là où la métaphore de l'espace latent, donc là où les LLM vont chercher tout ce qu'ils vont ressortir et décoder de leur travail. Donc l'espace latent, c'est un peu cet espace idéalisé dont parle un peu Platon, l'espace des idées. Et en fait, la création, ce qu'on appelle création, c'est juste aller chercher quelque chose dans cet espace latent, l'espace de tous les possibles imaginables. Et à la fin, on en choisit. Et même, en fait, quand on écrit, quand on peint, quand on fait quoi que ce soit, ce qu'on appelle la création, en fait, on choisit juste certaines de ces idées dans notre tête et on les déploie. Et donc, c'est juste une forme d'édition. Si tu considères que, en fait, le fait mécanique et technique d'écrire ou de composer de la musique ou quoi que ce soit, c'est quelque chose dont on peut s'affranchir, en fait, à la fin, c'est juste, tu choisis. Qu'est-ce que tu veux sortir et sur quoi tu veux signer ton nom à la fin? Et on voit que les artistes, par exemple, ils vont créer plein de choses qui vont jeter à la poubelle et à la fin, il y a une seule œuvre qu'ils vont présenter. Et en fait, ce changement de paradigme où on se rend compte que en fait, on est seulement dans l'édition, ça nous place dans quelque chose de différent. Vis-à-vis des IA et des machines, parce que ça nous permet d'être beaucoup plus proche de ce processus d'édition qu'avant, où en fait, pour pouvoir choisir quelque chose, il fallait pouvoir l'écrire ou le peindre ou le composer.
Je trouve c'est la première fois que j'entends ça. Je trouve cette idée d'édition passionnante. Après, je pense qu'il y a plein de gens qui vont avoir des petits blocages, tu vois, avant de vraiment adhérer à ça, et qui vont te dire aussi non, mais il faut passer par ce processus, tu sais, ces outils aussi, le temps que tu mets sur l'édition, qui permet ensuite, tu vois, la création. Mais je pense que on peut complètement les détacher aussi grâce à ces outils. Très bien. Pour le transcript, tu utilises quel outil aujourd'hui ?
J'utilise Gladias aujourd'hui, ce qui est une boîte française.
Bien sûr, Jean-Louis, qu'on adore, Jean-Louis. Que j'ai reçu, qu'on adore. Gladias qui sont trop, trop forts, évidemment. On adore. Moi, j'utilise Fireflies, tu vois, aujourd'hui. J'ai essayé Nuta aussi. Mais ces outils, oui, ils fonctionnent très, très bien. Et après, ce qui est génial, c'est en effet les utiliser avec ChatGPT ou avec le chat, avec ton LLM de prédilection. Et là, tu t'éclates et tu fais ce que tu veux. Moi, les rendez-vous clients, de temps en temps, ça devient une blague. Je vais me retrouver donc sur une réunion, un rendez-vous, un déjeuner que je vais enregistrer. Je vais prévenir mes interlocuteurs que j'enregistre. Tout le monde me dit « Ah bon, mais par contre, tu prends pas de notes, tu vois ?» Et en fait, même dans un resto bruyant ou un truc comme ça, derrière, je prends mon dictaphone, je fais passer ça dans mon assistant de réunion, ça me sort un transcript. Et sur même un déjeuner avec une réunion technique et tout ça, ça me sort un truc mais impeccable, comme tu l'as dit tout à l'heure, donc avec un plan structuré, nickel. Et en général, à la fin, tu vois, je regarde mes associés et je leur demande, mais elles sont où alors vos notes? Tu vois, parce que à la fin, je suis souvent le seul à pouvoir partager des notes, quoi. Tu vois.
Ouais.
Et c'est extraordinaire. Extraordinaire.
Ouais, et ça, là-dessus, en fait, on a vraiment pris le pli chez Alan.
Enfin, okay.
Un petit side project de mes dernières semaines, c'était de construire une extension Recast. Recast, c'est un outil qui te permet de faire des. En gros, ça remplace Spotlight sur Mac. Mmh. Et donc, j'ai une extension Recast. Donc, avec un raccourci, je peux avoir tous mes voice mémos qui viennent de iCloud, de mon téléphone, de mon ordi. Ça les transcrit. Et derrière, il y a un petit outil où j'ai plusieurs formats où je vais aller appeler un LLM pour dire, ça, c'était un one-on-one, je veux que tu m'en fasses un résumé avec les action items, etc. Et en deux secondes, en fait, j'ai ces notes qui sont prêtes et que je peux partager. C'est extrêmement puissant, notamment grâce à la culture d'Alan qui est uniquement à l'écrit. Mais ça, c'est... On peut diguer là-dessus aussi.
Ok, donc ça, c'est très, très bien. J'allais te demander aussi un peu... Alan, donc tout le monde connaît. Hein, donc moi, je suis client d'Alan depuis très longtemps et très content d'ailleurs parce que franchement, au niveau en tout cas déjà de l'application, de l'ergonomie et tout ça, c'est un plaisir quand on est un peu geek par rapport aux solutions un petit peu du passé. Je trouve que c'est génial. Mais est-ce que tu peux nous présenter un peu ce que vous faites chez Alan avec l'IA générative? Vous l'avez intégré dans vos process un petit peu. Donc là, tu nous donnais un premier exemple. Est-ce que c'est à d'autres niveaux aussi?
Donc, en gros, en fait, en début 2023, la conviction était venue que c'était vraiment le moment de s'investir en tant qu'entreprise dans l'IA. Et donc, on a fait un plan. Et ce plan, c'était, il y avait trois parties. D'une part, que 100% des gens chez Alan devaient utiliser de manière productive l'IA dans leur travail de tous les jours. Deuxièmement, qu'on allait réduire nos coûts et augmenter la personnalisation et le pouvoir de nos produits grâce à l'IA. Et la troisième partie, c'est qu'on allait partager sur ce qu'on faisait dans l'IA. On s'est attelé directement sur le premier sujet. Là où on a eu de la chance, c'est qu'il y a une entreprise qui s'appelle Dust.
Peut-être que tu as reçu. Stanislas qui t'a précédé, bien sûr. Ouais. Et Gabriel aussi que je connais.
Ouais, mais donc Gabriel Hubert qui justement a passé 3 ans chez Alan, donc ça.
Et oui, évidemment.
Ça a aidé aussi. Et en fait, on est devenu un design partner pour cette entreprise Dust. Et ce que fait Dust, c'est déployer des assistants personnalisés qui peuvent s'appuyer sur tous les documents de l'entreprise.
D'accord, donc un cas très très important, on parle souvent des cas principaux, donc les premiers arrivés, donc il y a Customer Care, quoi, le service client, mais surtout aussi il y a très vite le knowledge management, de la gestion des connaissances de l'entreprise, qui n'était pas accessible avant à tout le monde, pas structuré, sous plein de formats différents, et d'une certaine manière en fait, CLLM, moi je viens de penser à ça récemment, là, tu vois, je me permets une toute petite digression Charles pour te sonder, mais je me disais, mais tu vois, au final… Wikipédia, c'est un objet extraordinaire sur Internet, tu vois, c'était l'ensemble du savoir humain, mais tu vois, il y a une prolongation, c'est accéder à Wikipédia, à tout ce savoir via LLM, en fait, aujourd'hui, ça te donne une manière encore plus efficace de trouver de l'information. Et il se passe la même chose, tu vois, avec toutes ces données d'entreprise.
Ouais, exactement. Et c'est… Et donc, on a pu s'appuyer sur Dust pour nous aider en fait à faire des assistants. Donc, un exemple.
Donc, vous avez mis toutes vos données. Est-ce que Dust fait du RAG?
Oui, exactement. C'est ça. C'est donc, comme ça que ça.
Retrieval Augmented Generation. Donc, parce que du RAG, en fait, on en parle tout le temps. Pour bien retrouver les données, bien s'adresser à ces données, éviter les hallucinations des modèles. Mais au final, quand je cherche, tu vois, des solutions faciles à utiliser de RAG, faciles à mettre en place, sincèrement, en ce moment, le seul nom que j'ai en tête, moi perso, c'est Dust. Pour l'instant.
Ouais.
Tu confirmes ça, Charles, un peu. Enfin, ouais.
C'est peut-être pas le seul nom, mais c'est celui dont il faut se rappeler, je pense.
Et donc, est-ce que tu peux nous écrire, vous avez mis toutes vos données dedans ou…
Et donc, nous, en fait, c'est peut-être pour prendre un tout petit step back, c'est que comment on a pensé notre knowledge management. En fait, donc, chez Alan, on fonctionne en transparence radicale, donc tout le monde a accès à toutes les informations, ce qui va être crucial pour les sujets d'IA. Et on a structuré par channel, donc… En gros, on a Slack pour le tout venant du flux. On a les GitHub Discussions qui nous permettent de prendre les décisions qui ont vraiment un impact. Et en fait, on a tout l'historique des discussions et pourquoi on a pris une décision dans GitHub Discussion. Et ensuite, on a Notion pour tout ce qui est stock. Donc, vraiment les informations qui restent un peu immuables dans le temps. Et donc, on a pu donner ces informations, toutes celles qui n'étaient pas sensibles. Enfin, donc, s'il pouvait y avoir ne serait-ce qu'une chance qu'il y ait de la donnée personnelle, c'était non. Et on a mis ces informations en fait, qui étaient non sensibles sur Dust. Et donc, maintenant, on a des assistants qui vont chercher des informations surtout. Donc, des exemples d'assistants qui marchent très bien, c'est un on-call. Enfin, on a dans toutes les équipes des gens qui sont préposés à répondre aux questions de ceux qui ne savent pas comment on fait marcher l'imprimante ou je ne sais pas quoi. Et donc, on a remplacé ces préposés par un assistant Dust. Donc, at office on call, comment est-ce qu'on fait marcher l'imprimante et on a la réponse immédiatement. Donc, à la fois, ça nous fait gagner du temps parce qu'on n'a pas à aller à chercher dans toutes les informations qu'est-ce qui était important. Ça nous permet de ne pas avoir à pinguer une personne et de la déranger dans son boulot quotidien. Et derrière, en fait, tout le monde est plus content et plus efficace. Donc, on a ces exemples-là de vraiment chercher l'information.
Ouais.
Ensuite, il y a tous les sujets de vraiment améliorer la productivité des gens. Un exemple, c'est, je ne sais pas si tu as déjà fait du SQL, mais en gros, il y a toutes les données des entreprises, si tu veux savoir un peu la performance, etc., souvent, il faut faire une requête SQL, donc historiquement, tu allais voir ton data analyst et tu lui dis, bon, ben, est-ce que tu peux me faire ça pour demain, me sortir la réponse à, la question de combien est-ce qu'il y a de gens chez Alan qui ont plus de 35 ans. Et ça te prend une demi-journée parce que la personne, elle va pas répondre immédiatement pour te faire
bien
ta colère.
Bien sûr, bien sûr. Et ça, je vois très bien, en effet. Ça m'est déjà arrivé. Et moi, je n'étais pas capable de le faire moi-même. Je devais m'adresser à quelqu'un, lui demander quelque chose pour le lendemain ou le surlendemain.
Ouais. Et bien là, on a fait passer notre data model dans Dust. Et donc, tu poses la question et Dust, à la fois, t'écrit ta query SQL et t'explique comment ça a marché.
Très fort, très fort. Ouais.
Et donc, ça améliore la productivité de manière assez dingue dans la boîte. Et donc, on a déployé ces use cases différents dans l'entreprise. Derrière, on a fait beaucoup d'éducation. Parce qu'en fait, souvent, les gens, ils regardent, ouais, l'AI, c'est hype, mais je ne sais pas trop comment je vais pouvoir l'utiliser pour moi. En plus, les dernières hypes, genre blockchain, en fait, ça ne servait à rien. Je ne vais pas me burn encore une fois. Et donc, il y a plein de gens qui ont juste rejeté le truc sans aller regarder. Donc, ce qu'on a fait, c'était d'abord rassembler beaucoup de contenu. On a fait une GPT Academy pour aider les gens à savoir l'appliquer. On a fait des workshops pour que les gens aient essayé au moins une fois, deux fois, trois fois comment est-ce que l'IA pouvait leur résoudre leurs problèmes. Et derrière, en fait, on a complètement rendu ça quelque chose de très bottom-up où chacun a commencé à construire ses use cases, donc notamment en organisant des hackathons internes parce que c'était hyper puissant. Et on s'est retrouvé avec par exemple un stagiaire en marketing qui nous a fait une extension Google Script qui permettait de traduire en un clic toute une présentation.
Ouais.
Et c'est génial parce que nous, on est en France, en Espagne, en Belgique. Si on peut traduire en espagnol directement la présentation qu'on avait faite en français, en fait, on gagne énormément de temps. Et à la fin, si tu gagnes du temps, en fait, tu es plus efficace et tu vas plus vite.
Ah, mais écoute, c'est génial. Mais quand tu parles de cette traduction là par cette personne de ton équipe, je trouve que c'est intéressant aussi. Il y a Ethan Mollick, donc prof à Wharton, qui parle souvent de ça, des cyborgs. Et un des points des cyborgs, c'est identifier les gens qui aiment bien utiliser ces outils, tu vois, qui utilisent beaucoup, et tout en se disant que ces cyborgs, ils peuvent être à n'importe quel niveau de l'organisation. C'est pas forcément le CTO Charles, en fait, qui va être le seul et le meilleur à utiliser ces outils de GenAI. En fait, tu peux avoir des cas incroyables qui viennent de tous les niveaux, et que ces cyborgs, par contre, il y a 8 mois, ils se planquaient dans les entreprises parce qu'ils ne savaient pas s'ils avaient le droit de faire des choses ou de le dire, et qu'en fait, il faut vraiment les incentiver à partager ce que tu fais là avec cet employé, je pense.
Et donc, en fait, on voit que cette génération de l'IA, l'IA générative, en fait, est extrêmement simple à utiliser. En fait, si tu sais écrire quelques mots dans une text box, tu peux utiliser l'IA. Et donc, c'est une force de distribution de pouvoir qui est exceptionnelle. Et c'est vrai dans l'entreprise, mais c'est vrai aussi dans le monde. Enfin, ça donne la capacité à un enfant, je ne sais pas où, d'avoir un pouvoir qui ne pouvait même pas être imaginé par un président américain en 1960. Enfin,
C'est extraordinaire ce que tu dis là. Et donc, est-ce que l'IA va être le grand égalisateur du 21e siècle aussi, hein, agir comme ça? Et ça, en effet, ça donne un pouvoir extraordinaire, une compétence. En fait, la compétence devient accessible en un prompt, comme la recherche sur Google l'était en un clic, quoi. Enfin, tout le savoir humain. Là, c'est la compétence, c'est le pouvoir, c'est une redistribution potentielle des cartes. C'est génial.
Alors, je ne sais pas si ce sera un égalisateur. Ce qui est sûr, c'est que ça va rebattre des cartes. Donc, il y aura des inégalités, mais qui seront différentes de celles qui étaient là jusqu'à aujourd'hui.
Tu as dit un truc juste avant qui était très important, c'est c'est vraiment accessible à tout le monde. C'est, tu l'as dit très clairement, c'est juste savoir rentrer du texte dans une chatbot, dans une chatbox. Franchement, on écrit sur Snapchat, sur Snap, c'est la même chose. À l'époque, sur MSN, il n'y a rien de compliqué à ça. Et je pense que ça, il faut pousser ce discours-là que tu viens de lancer. C'est arrêter de se mettre des barrières avec, là-dessus, parce qu'il y a plein de préjugés à tous les niveaux. Hein. Il y a hommes, femmes, sur l'utilisation, beaucoup plus d'hommes qui utilisent que de femmes. Alors qu'en fait, il n'y a aucune prétention à avoir. Ça revient juste à rentrer un langage, des informations, même pas forcément hyper structurées, formalisées, comme tu l'expliquais tout à l'heure, dans une chatbox. Un point, c'est tout.
Ouais, exactement. Et en plus, en fait, on peut même se soustraire au texte. Enfin, on peut même le faire par voix. C'est ce qu'on a dit plus tôt. Par exemple, moi, j'ai un enfant de 5 ans, je lui ai mis un chat GPT à la voix devant, il ne sait pas écrire et il ne sait pas lire, et il a pu converser et poser des questions assez profondes à ce chat GPT, genre par exemple, demander ce qui est plus important entre la Terre et le Soleil.
Il est sûr. Ah ouais, très bien, très bien. Donc, il est sorti de. Donc, on est. Ouais, très bien. Très important cette question sur l'importance Terre-Soleil, en effet. La Terre tourne autour du Soleil. Et ça, je pense que. Mais ça, ce que tu dis là, tu vois, cette question, elle est fondamentale à l'heure de l'IA aussi. Parce que. On a appris il y a quelques années que la Terre tournait du Soleil autour du Soleil et pas l'inverse, et on découvre aussi aujourd'hui que l'intelligence c'est peut-être autre chose que ce qu'on pensait, qu'elle n'est pas forcément limitée et le propre l'appareil de l'être humain, mais qu'on peut aussi la retrouver dans la machine. Donc ça c'est important aussi ce passage.
C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle je pense que ça a fait un petit peu peur l'IA. Mm-hmm. Que ouais. Je considère que c'est le quatrième décentrement. En fait, au fur et à mesure, on a eu des décentrements avec. Tu parles un peu de Copernic. En gros, l'humain n'est plus au centre de l'univers. La Terre n'est plus au centre de l'univers. Ensuite, tu as Darwin où l'humain n'est plus au centre de la création. Ensuite, tu as Freud qui dit même le conscient. N'est pas au centre avec la conscience. Et là, on est en train de nous dire qu'en fait, on n'est même plus les plus intelligents. Et donc, et que l'intelligence, c'est plus le propre de l'homme. Donc, ça peut faire peur. Mais il faut se rendre compte que, en fait, ça fait changer pas mal de choses. Mais en fait, ça change de la même manière dont ça a toujours changé.
Bien sûr. Bien sûr, non, mais ça peut sembler très déstabilisant. C'est très intéressant de le présenter comme un quatrième décentrement. Je suis d'accord. Enfin, remettre l'homme à sa place et lui donner donc un rôle qui est peut-être un peu moins central que ce qu'on pensait. Et après, oui, ça fait peur parce que. Et dans la lignée aussi, c'est d'une certaine manière, on déléguait aussi des capacités de mémorisation de l'information à la machine depuis des années. Aujourd'hui, on va commencer à lui déléguer des capacités de raisonnement, qui étaient encore une fois celles qu'on gardait un petit peu pour nous, quoi. On a vu les disques durs et tout ça, et là, on va encore plus loin.
Alors là-dessus, c'est le regretté Michel Serres qui prenait. La parabole de Saint-Denis, donc l'histoire de Saint-Denis, c'est qu'il se fait couper la tête et là, miracle, en fait, il prend sa tête et il la porte. C'est Saint-Denis Céphalophore qui porte sa tête jusqu'à la butte Montmartre. Il prenait cet exemple pour tout ce qui était numérique. C'était dans son essai Petite Poussette, où en gros, on était en train d'extérioriser beaucoup de la pensée aux machines. Et en fait, l'IA, ça envoie ça encore plus loin avec l'intelligence artificielle générative, parce qu'on peut sortir encore plus des tâches de réflexion qui ne sont pas forcément propres à nous, pour se focaliser sur les tâches de réflexion qui seront encore plus humaines, c'est-à-dire le contact humain, la compréhension d'un autre humain, l'empathie, etc. Et ça a des impacts sur beaucoup de choses. Nous, notre truc, c'est la santé chez Alan. Et donc, typiquement, si on peut réduire toutes ces tâches qui peuvent être administratives et de pensée qui est un peu bateau, et que les médecins, par exemple, peuvent se focaliser sur la relation avec leurs patients, la relation humaine. En fait, on a gagné du temps et on a gagné en humanité, paradoxalement.
Évidemment, on a beaucoup parlé de est-ce que ces chatbots, ces LLM, ces modèles de langage peuvent être empathiques ou pas, et certainement en tout cas, mais avant ça, surtout, ils peuvent délester, comme tu dis, tous les professionnels de santé, de tout l'admin, qui est l'admin, est une sorte de forme, un petit peu, donc, comme on l'a décrivé tout à l'heure, pour leur faire gagner un temps incroyable et se concentrer sur leur savoir et la relation humaine.
Exactement. Ouais. Donc, tu parlais d'empathie. Nous, on a pu répliquer une étude qui avait été faite aux États-Unis sur des médecins qui prenaient des questions Reddit et qui répondaient en fait en tant que médecin. Et les chercheurs ont comparé ça avec des réponses qui auraient été générées par ChatGPT et derrière faisaient évaluer ça par des humains sur le côté correct de la réponse et le côté empathique de la réponse. Et en fait, ce qu'ils ont trouvé et ce que nous, on a su répliquer et qu'on a trouvé, c'est que les IA, en fait, étaient tout aussi correctes, donc à peu près au même niveau que les humains, mais beaucoup plus empathiques dans la perception.
Ouais. Et
Ce qui
ton étude, t'as répliqué ça avec une étude chez vous, et c'était la même, et t'en arrives aux mêmes conclusions?
Exactement. Alors,
Wow.
sur des questions qui étaient posées dans notre clinique virtuelle chez Alan, toujours enfin, avec
Ouais.
l'accord des personnes concernées.
Ah, c'est fascinant. Petite question sur le service client. Vous avez intégré de l'IA générative sur votre service client. Je pense à ça parce que tu vois, je parle beaucoup de Klarna en ce moment. Donc Klarna sur l'intermédiation financière, qui expliquait un petit peu ce qu'ils faisaient sur le service client avec OpenAI. Vous faites ça aussi parce que j'imagine que vous pouvez gagner du temps.
Oui,
Avec
exactement.
Mistral, certainement.
Ouais,
Enfin,
ça fait partie donc on a les modèles Mistral qui tournent, mais on utilise aussi d'autres modèles. Et en fait, l'idée, c'est aujourd'hui, on peut avoir des réponses quasi immédiates par un LLM, alors que ça peut prendre 2-3 minutes d'avoir une réponse de service client. Et souvent, en fait,
T'es le 12e dans la file.
voilà.
Ouais.
Donc, c'est ce que je racontais sur les on-call un petit peu plus tôt. En fait, on l'a répliqué aussi sur le customer service. Nous, on a toujours aimé utiliser le chat, et donc c'est hyper pratique de ce point de vue-là. Et donc, on identifie en fait que c'est une machine qui répond, que c'est une IA qui répond, mais qui donne une réponse très rapide. Et parfois, ça suffit pas. Et donc là, on peut demander l'intervention d'un humain. Et au fur et à mesure, l'idée, c'est de faire passer la proportion des humains qui répondent à un petit peu plus de machines,
Ouais.
si on peut considérer que le niveau le niveau de service en fait augmente. C'est que comme c'est plus rapide et si c'est suffisamment correct, alors là, en fait, c'est pertinent et on va passer dessus pour le moment.
Ok, je comprends bien je comprends bien la manière dont vous voulez le faire et je pense que c'est la bonne. Tu mesures aujourd'hui, tu as une idée de, par exemple, cette IA c'est pas elle remplace, mais elle fait le travail équivalent c'est comme si vous aviez embauché peut-être des nouvelles personnes sur le service client, je veux dire, et ça peut faire le boulot de, bah, Klarna, il nous disait 700 personnes, chez Alan, c'est un chiffre, c'est significatif quand même déjà, enfin.
C'est significatif, c'est peut-être pas 700 personnes, hein, mais
Mais genre plusieurs dizaines,
voilà.
voilà quoi.
Mais en fait, le truc, c'est que en face, nous, on embauche quand même parce
Ouais.
que c'est le paradoxe de Jevons, en fait, c'est que comme tu réduis les coûts, en fait, ça te coûte. moins cher de pouvoir déployer ton service. Et donc, tu as plus de cas d'usage qu'avant. Et donc, en fait, paradoxalement, ça crée des jobs d'avoir une meilleure efficacité et d'avoir de l'IA.
Voilà, c'est ça qu'on veut entendre. Merci Charles, tu nous rassures. Charles, j'aimerais t'emmener sur un autre sujet un petit peu qui est un peu pour moi un des sujets du moment, mais je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus. On parle tous des agents en ce moment, des agents sur l'IA générative. On a vu Devin il y a 10 jours, 2 semaines. Toi, en tant que CTO et développeur aussi, je pense que tu as dû voir passer ça, forcément. Donc, Devin, qui était un agent qu'on appelle maintenant un software développeur, enfin, c'est un développeur IA logiciel et non pas humain. Donc, ça, c'était très intéressant. On voit qu'il arrive en autonomie à gérer pas mal de tâches et des cas différents, hein. Il y en a pas mal de différents. Il y a Lindy aussi aux États-Unis que moi je regarde avec Florent Crivello. Il y a Twin Labs de Hugo Mercier que j'ai reçu ici et je crois que tu es investisseur dans sa boîte et on adore Hugo. Il y a peut-être même Holistic, sujet dont tout le monde parle en ce moment avec des anciens de Google. Est-ce que tu peux me dire un peu ce que tu penses des agents? Est-ce que ça va être le gros sujet de 2024 et des années qui viennent? Et après, on ira un peu plus loin, mais est-ce que c'est ça qui va nous mener à l'AGI? Voilà. Mais
Alors,
reprenons un petit peu au début. Hein. Excuse-moi, je t'en ai. Voilà.
on reviendra sur le terme AGI après. Mais sur les agents, pour rester sur le sujet, en fait, c'est sûr que pouvoir orchestrer plusieurs LLM ensemble, en fait, c'est hyper puissant. Parce que, en fait, tu multiplies la puissance des différents LLM entre eux. Et tu peux spécialiser et tu peux avoir beaucoup de choses. Il y a peut-être le plus simple des agents, ce serait faire une boucle sur un agent qui vérifie son résultat et qui peut l'éditer. Il y a pas mal d'anthropomorphisme qui peut être fait là-dessus. Si on te demande de faire un calcul de tête, mais que tu n'as pas le droit de regarder ce que tu avais écrit avant et si tu avais fait des erreurs, etc., tu risques d'être moins correct qu'avant. Donc, il y a Andrew Ng qui est un des pontes de l'IA qui a posté là-dessus et qui montrait que justement GPT 3.5 pouvait battre GPT 4 si on le mettait en boucle sur lui-même.
Je viens de regarder ça dans Sequoia Capital. Excellent. C'est ouais, fou ça, fou que cette idée était folle. Et les exemples qui montent dans cette petite vidéo de 10 minutes, donc Sequoia Capital, ils sont excellents. Et on voit en effet GPT 3.5 en agent, donc plusieurs étapes et qui arrive à être meilleur que GPT 4, c'est fou.
Après, la difficulté, c'est vraiment l'orchestration de tout ça. C'est que potentiellement, il peut aller se buter dans un coin et être bloqué là-dessus. Donc, il y a encore de l'expérimentation. En fait, moi, j'ai tendance à penser qu'il y a un peu trois angles d'un triangle pour l'évolution en IA. Il y a le côté recherche, donc des meilleurs modèles, le côté tinkering, donc vraiment construire, faire de l'engineering, coller deux, trois modèles entre eux. Et ça, c'est quelque chose où on est en train d'extraire beaucoup, beaucoup de jus en ce moment, parce qu'on n'a pas besoin de meilleurs modèles pour pouvoir faire des agents. Et ensuite, il y a tout ce qui est produit, donc vraiment comment est-ce que ça va interagir avec des humains. Et ça, on est à peine en train de gratter la surface. Et
Donc c'est
les agents, pour moi,
ton trilemme de la blockchain à toi sur l'IA, ça. Ok.
Ouais, je connais pas le. J'ai assez peu regardé sur la blockchain, donc je connais pas, mais oui, c'est un peu ces trois choses
Oui,
qu'il
non,
faut.
mais très bien. Trois choses qu'on veut avoir en même temps pour progresser. Ouais. Ok.
Ouais, et en fait, enfin, il y a beaucoup de gains en ce moment sur vraiment le tinkering, juste bricoler un petit peu. Les agents, pour moi, c'est ça. Après, le truc des agents, c'est que tant que c'est quelque chose qu'on colle un peu, c'est pas forcément très généralisable, dans le sens où, où en fait on doit le faire en fonction d'un problème, alors que les LLM en eux-mêmes sont quelque chose de qui sont très forts à la généralisation. Et donc le tinkering c'est utile, mais c'est pas la panacée. Enfin, genre il faut toujours investir un petit peu pour pouvoir le faire. Donc pourquoi pas pour pour certains use cases, et je pense que c'est on va voir beaucoup de choses qui vont être intéressantes en 2024 là-dessus.
Ouais, donc les agents, on va voir ça, ça va être, on va en parler beaucoup. C'est en tout cas, en ce moment, j'ai l'impression que tout le monde travaille là-dessus, à San Francisco, mais aussi à Paris, et heureusement. Génial. J'en profite, j'ai vu un sujet dont on parle pas beaucoup, c'est le speech to speech, et la traduction instantanée. J'ai vu que tu avais fait un post là-dessus, ce qui m'a beaucoup plu. Tu parlais en japonais, en fait. T'expliquais que tu avais seulement quelques bases en japonais. Et pour générer une vidéo de 50 secondes, tu le faisais en 15 minutes. Ton pronostic, c'est ça qui m'a beaucoup plu, c'est que dans un an, nous aurons tous un poisson Babel, comme dans le guide du routard. Le guide du voyageur intergalactique de Douglas Adams, qui permet de traduire instantanément dans la langue souhaitée. Et tu disais, formidable opportunité pour la diversité des langues, moins besoin d'une lingua franca, ainsi que pour la compréhension entre les peuples. J'ai trouvé ça très intéressant. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je suis passionné, moi aussi, par le guide du voyageur intergalactique, dont je pense énormément de choses viennent, hein. Enfin, DeepMind, tout ça, c'est le nom de DeepMind vient de là, hein. Pensée profonde. Voilà. Mm. Et cette traduit, et donc le poisson Babel, le Babelfish qu'on se met dans l'oreille, Charles. Est-ce que ça, tu penses que donc on y arrive là, ça devient une réalité?
Alors, il y a toujours des problèmes de latence, hein, mais aujourd'hui c'est possible. Enfin, j'ai un raccourci sur mon téléphone où je peux parler directement, et ça va le traduire dans le langage que j'aurais mis, et c'est hyper pratique. Enfin, tu veux voyager, c'est hyper simple maintenant de pouvoir parler avec n'importe qui si tu as un accès internet. Bientôt tu auras même plus besoin d'un accès internet,
et ça avec du modèle embarqué type Mistral. Ouais, super.
Non, et même des modèles de text-to-speech qui vont être directement embarqués dans les téléphones. Parce qu'aujourd'hui, on a encore besoin des API. Il y en a qui existent, mais qui sont peut-être un peu moins bons. Et surtout, ça reprend le timbre de voix. Là, on voit avec Yume, je ne sais pas si tu as vu, c'est un nouveau modèle qui est capable d'inspecter les émotions. Et donc, en fait, de répondre en fonction des émotions dans les voix. Et c'est assez intéressant parce que j'ai bossé dans le même labo avec les gens du labo du mec qui a monté cette boîte.
Waouh, modèle d'émotion, ouais, tu dis H-U-M-E, c'est ça?
H-U-M-E, ouais. Voilà. Et en fait, ça apporte quelque chose de très fort. De pouvoir écouter, en fait, c'est tu t'écoutes peut-être dans la voix de la personne, en fait, avec les intonations, et en fait tu récupères des choses que tu perdais complètement au doublage. Le doublage peut être une quelque chose, un art à part entière, et il y a des doublures qui ont fait un travail exceptionnel. La doublure de Bruce Willis pour Piège de cristal, en fait, c'était une œuvre à part entière qui apportait ce côté de comédie à Piège de cristal que tu n'avais pas dans la version originale.
Évidemment, évidemment. Même, et on a plein de doubleurs célèbres, notamment aussi dans K2000. Je ne sais pas si tu vois, David Hasselhoff, ça fonctionne très bien. Je comprends tout à fait. Excellent, excellent, très intéressant ce Yume. Charles, vu qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, j'aimerais qu'on aille un tout petit peu donc sur justement les possibilités et découvertes que l'IA générative peut nous amener et l'AGI. Voilà,
Alors,
est-ce que tu penses qu'on est un petit peu à la naissance d'un nouvel âge d'or, une nouvelle renaissance au niveau de la science et des découvertes que ça peut amener?
je suis un très grand optimiste. Je pense que c'est clairement, et j'en parle beaucoup, du fait que je pense qu'on est à l'orée d'un nouvel âge d'or. Après, sur le thème, le terme AGI, moi, je suis un agnostique dans le sens où. Où je pense que la question est mal posée. Donc, si
Tu dis
je
quoi, un diagnostic? Alors,
c'est en gros, donc quand on pose quand on dit est-ce que Dieu existe, il y a des gens qui vont être donc athées qui disent il n'existe pas, des croyants qui disent Dieu existe, il y a des agnostiques qui disent
bien sûr.
je ne sais pas répondre à la question, et les agnostiques qui disent en fait, tu as mal défini Dieu, donc je ne peux pas répondre à la question. Et
Très intéressant, très
l'AGI,
intéressant. Et là, tu vois, on en revient au guide du voyageur intergalactique. Tu m'as mal posé la question sur le sens de l'univers, donc je ne peux pas te répondre, quoi. C'est ça aussi. Ouais.
à peu près ça.
L'agnostic, ok, d'accord. Ouais.
Et donc, AGI, c'est quelque chose qui est très mal défini. Genre, tout le monde a un point de vue différent de ce que ça veut dire. Si je me posais la question en 2018 de ce que voudrait dire l'AGI, pour moi, on a dépassé l'AGI en 2023.
Ouais, bien sûr. Ouais.
Et le test de Turing, etc.
Test de Turing aussi, c'est ma question traditionnelle, j'ai pas eu le temps de te la faire, mais évidemment, et si on se replace un tout petit peu dans le passé, on l'a explosé ce test.
Ouais.
Bien
Bah,
sûr.
oui et non, parce que en fait, le test de Turing, c'est quelque chose qui doit aussi être fait de manière adversarielle. Et en fait, on l'a pas vraiment fait beaucoup de manière adversarielle. Il faudrait avoir un champion de test de Turing qui va essayer de se battre contre un ordinateur et un autre champion de test de Turing et essayer de déterminer. Aujourd'hui, si tu balances des fautes d'orthographe dans ton texte, l'humain peut voir que c'est un humain en face.
Évidemment,
Et
évidemment.
donc, il y a encore des choses à creuser dans le test de Turing.
On le fait dans le sens inverse parce qu'on se dit, tiens, bah, c'est trop parfait, donc c'est la machine. Mais c'est marrant qu'il n'y ait pas eu d'ailleurs, tu vois, une expérience un peu en mode reality show, quoi, tu vois, enfin, pour vraiment montrer une petite expérience sur refaire le test de Turing aujourd'hui avec ChatGPT ou avec Mistral. Ce
C'est
serait marrant.
drôle, j'ai
Ouais,
commencé à lire.
j'entends ta réponse sur AGI, agnostique. Donc la question est mal posée aussi, oui, et parce qu'on n'a pas de définition, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Mais tout comme, et dans ce cas-là, tu vois, tout comme avant même AGI, qu'est-ce que l'intelligence tout court aussi?
Ouais. Et il y a plein de questions philosophiques qu'on se pose depuis 3000 ans, donc c'est assez passionnant. Et donc il y a beaucoup de travail de philosophie à faire justement par rapport à ça. Donc je pense que c'est assez intéressant. Et l'IA peut nous aider, peut pas tout faire, mais peut nous aider là-dessus.
Tu vois l'IA, donc dans tous les cas, quand même, peut nous apporter beaucoup de réponses à des grandes questions, des grands problèmes qu'on peut avoir dans les
Ouais,
prochaines années.
je pense, ouais, et en fait, l'IA va être un accélérateur assez fort de l'humanité. On le voit déjà sur des sujets comme la médecine, où il y a des détections de cancer qui peuvent être faites grâce à l'IA. Maintenant, avec tout ce qu'on peut faire en termes de. Enfin, on peut utiliser l'IA dans la recherche pour absorber des masses de données énormes. Et en fait, en faire une synthèse qui était impossible à faire pour un cerveau humain. Et ça crée des liens qu'on ne pouvait pas soupçonner. Et donc, derrière, je pense qu'il va y avoir un impact énorme sur la vie des gens. Donc, c'est là où c'est assez intéressant, c'est que si on ralentit le progrès en IA, on risque d'avoir un coût d'opportunité gigantesque en termes de vie humaine.
Alors, donc, et là, tu prends un point de vue accélérationniste d'une certaine manière. Tu sais, il y a des mouvements
Ouais,
un peu
je connais bien, hein.
accélérationnistes qui en tout cas parlent et c'est ce qui c'est ce qu'ils expliquent, ce qu'ils défendent. Moi ça me parle, ça me parle aussi beaucoup hein, personnellement. En effet, en freinant le progrès là-dessus, il y a toute une génération qui est, toutes les générations les plus âgées de la société à qui on fait porter potentiellement des risques parce qu'on aurait pu les soigner ou repousser en tout cas leur vie en pleine santé au maximum. Ouais. Voilà.
Ouais, non, je ne suis pas fan de m'accoler une étiquette
Oui,
directement, mais
non, mais je suis d'accord.
le côté optimiste pour moi est assez important.
Oui, c'est marrant. Et je suis d'accord avec toi. Moi non plus, je ne mets pas d'étiquette là-dessus. Et même, tu vois, dans les courants qu'on voit à Silicon Valley, entre effective accélérationniste, qui est peut-être un petit peu plus dur à porter, qui va un peu plus loin, et tu as le techno-optimisme aussi de Marc Andreessen, qui est peut-être un peu plus modéré là-dessus.
On peut faire des critiques sur son texte, mais globalement, je pense que ça va dans la bonne direction, parce que en fait, on a des bénéfices qui peuvent être énormes de la technologie. Après, il faut le faire de manière raisonnable, raisonnée, bien regarder comment on fait les choses. Et là-dessus, en fait, il faut qu'on apprenne au fur et à mesure en tant que société les points qui sont des risques, les choses qui sont des bénéfices, et ensuite essayer de faire un équilibre entre les deux, réguler les risques, réguler surtout les applications plutôt que la technologie, et ensuite
Ça, c'est
pour continuer à innover et faire bénéficier toute la société de ça.
très important. Il y avait une phrase géniale dans ce manifeste qui m'a beaucoup plu, c'était l'IA est notre pierre philosophale. Nous faisons littéralement penser le sable, le silicium. Ça, c'était
Exactement.
très fort, très fort.
Ouais.
Charles, dernière question. Est-ce que tu as un livre ou un film de science-fiction à nous recommander? Tu peux me sortir autre chose aussi, hein, si tu veux.
Niveau film de science-fiction à recommander. Moi, en fait, paradoxalement, le bouquin qui m'a beaucoup inspiré pour réfléchir à l'IA, c'était Le temps retrouvé de Proust. C'est pas de la
Ah.
science-fiction. Mais en fait, ça m'a énormément inspiré parce que Proust parle de l'intemporalité et parle de l'espace des idées qui sont complètement arbitraires. Et en fait, l'IA, en vivant dans l'espace latent, est complètement arbitraire vis-à-vis des idées. Et donc, ce qui explique aussi juste les hallucinations, parce que en fait, c'est complètement déconnecté de la réalité. Et donc, ça va générer des choses qui sont plausibles, mais pas vraies. Et en fait, ça m'a énormément inspiré de relire ça il y a 1 an et demi. Donc, j'y pense encore souvent.
Très bonne recommandation. Et c'est vrai que bah, Proust, c'est aussi tout de suite une très grosse fenêtre de contexte, hein, d'une certaine manière, vu la densité du bouquin. Et je comprends ce que tu dis aussi ouais, sur la mémoire aussi. On apprend que la mémoire humaine, enfin, on sait qu'aujourd'hui, bah, elle reproduit les choses, mais elle reconstruit. Mais elle ne recopie pas, quoi. Et ouais, je comprends tout à fait. Super. Merci beaucoup, Charles. C'était génial de te recevoir sur le podcast. Merci de nous avoir partagé toutes ces analyses et concepts que tu as développés. C'était trop cool.
Ben, merci à toi. On aurait pu parler encore beaucoup plus longtemps, mais
Ouais.
merci.
J'avais encore d'autres questions, mais on le fera peut-être une prochaine fois. C'était trop super sympa. Merci beaucoup, Charles. À bientôt.
Merci Nicolas, à bientôt.
Ciao. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Comptoiria jusqu'au bout. pour me soutenir. Merci de le partager à deux amis ou de le relayer sur les réseaux sociaux et de le noter 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Pour finir, si vous voulez échanger sur l'IA générative et ses applications, contactez-moi directement sur LinkedIn ou venez simplement au meet-up mensuel Comptoir IA. À bientôt.